Respirer, sourire, manger, déglutir, entendre ou regarder, ce sont des fonctions naturelles du corps auxquelles on ne prête plus attention, et pourtant, il y a des nouveau-nés, des enfants, des adolescents et des adultes pour lesquels ces actions sont difficiles, voire impossibles à réaliser. À l'origine de ces difficultés peuvent se trouver des maladies rares. Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-cou, spécialisée dans les malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Maux de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares, tête-cou. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Quelles sont les recherches en cours pour tenter de soigner cette pathologie? Que peuvent espérer les patients? Dans cet épisode, pour aller plus loin, nous retrouvons le professeur Brigitte Fauroux, qui est pneumopédiatre et qui dirige l'unité de ventilation non-invasive et du sommeil de l'enfant à l'hôpital Necker. Épisode 2, le chercheur.
Alors, je suis le professeur Brigitte Fauroux, je suis pneumopédiatre et je dirige l'unité de ventilation non-invasive et du sommeil de l'enfant à l'hôpital Necker.
Quel est votre domaine de recherche, professeur, en matière de syndrome d'apnée obstructive du sommeil?
Alors, ici à Necker, on est donc un hôpital universitaire qui concentre le plus grand nombre de centres de référence maladies rares en France, avec pas moins de 44 centres de référence maladies rares. Et en fait, pour une bonne trentaine de ces maladies rares, il y a la possibilité pour les enfants de présenter des apnées obstructives du sommeil. Ce qui fait que dans ces maladies, comme à la fois les signes cliniques et l'interrogatoire et les questionnaires ne sont pas fiables, il faut systématiquement faire des explorations du sommeil. Et on sait que chez ces enfants qui ont des maladies rares, comme chez l'enfant parfaitement bien portant, l'apnée du sommeil peut être responsable de troubles neurocognitifs et de troubles du comportement.
Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est une exploration?
Vous avez deux types d'exploration du sommeil. Premièrement, l'examen de référence qui est la polysomnographie, qui analyse à la fois tous les paramètres respiratoires, c'est-à-dire la fréquence respiratoire, le débit d'air qui rentre et qui sort des poumons, et la partie, je dirais, électroencéphalographique, c'est-à-dire la partie centrale, neurologique, qui nous permet d'avoir des informations sur la durée exacte du sommeil, l'architecture, les stades de sommeil et l'efficacité du sommeil. Ensuite, vous avez un examen simplifié qui s'appelle la polygraphie respiratoire, qui n'enregistre que les événements respiratoires, qui est donc un examen plus facile à lire, plus facile à réaliser, moins inconfortable également pour l'enfant, mais qui peut suffire lorsque l'enfant présente exclusivement un problème respiratoire pendant le sommeil et pas un problème d'architecture ou de qualité du sommeil.
Et alors pourquoi ces explorations du sommeil sont-elles indispensables, comme vous étiez en train de nous l'expliquer?
Ces explorations du sommeil sont indispensables chez les enfants qui ont des maladies génétiques ou des maladies rares, qui sont exposés à un risque accru d'apnée obstructive du sommeil. C'est-à-dire que tous les enfants qui ont des malformations crânio-faciales, qui ont par exemple un défaut de développement du maxillaire ou de la mandibule, comme les syndromes de Pierre-Robin, ou qui ont une sudure prématurée des os du crâne, comme les craniosténoses, ou qui ont des maladies, je dirais, métaboliques, comme les mucopolysaccharidoses, mais aussi les enfants qui ont un syndrome de Prader-Willi, ou une délétion 22q11, ou une trisomie 21, ou des maladies osseuses constitutionnelles, comme les achondroplasies, ont des anomalies de la face qui retentissent sur les voies aériennes et peuvent donc augmenter la fermeture des voies aériennes pendant le sommeil. Dans ces maladies, à la fois ce que les parents peuvent observer pendant le sommeil ou ce que les enfants racontent ou ressentent, voire même les questionnaires de sommeil qu'on enregistre à ces enfants, ne sont pas assez spécifiques et sensibles pour se passer d'une exploration du sommeil. Un élément très important que nous, on a démontré dans toutes ces maladies depuis plus de 10 ans, c'est que les explorations du sommeil doivent être systématiques dans ces maladies et souvent également répétées au cours de la croissance.
Pour les pathologies que vous venez de décrire, ces explorations, plus tôt elles sont faites, le mieux c'est.
Ça dépend un petit peu des maladies. Pour vous donner un exemple, nous sommes très sensibilisés dans la trisomie 21. L'Académie américaine de pédiatrie a écrit qu'il est recommandé de penser à faire une exploration du sommeil il y a quelques années à 4 ans. Maintenant, ils ont réduit à 3 ans. Il y a des papiers qui viennent de montrer, et nous en particulier, que les bébés trisomiques, dès l'âge de 6 mois, ont un risque énorme de présenter de l'apnée du sommeil avec des formes extrêmement sévères. En effet, on a fait une étude avec l'Institut Le Jeune où on a inclus 40 bébés trisomiques. On leur a fait systématiquement une exploration du sommeil à la maison à l'âge de 6 mois et plus de 60% des bébés à l'âge de 6 mois avaient de l'apnée du sommeil extrêmement sévère.
Vous nous donnez par exemple le résultat de ce projet de recherche. Vous en menez plusieurs ?
Oui, on a montré exactement la même chose dans d'autres maladies, dans l'achondroplasie, dans d'autres maladies osseuses constitutionnelles, dans le syndrome de Prader-Willi et d'autres maladies. Ce dépistage est rentré maintenant pour beaucoup de ces maladies dans le PNDS, c'est-à-dire le protocole national de dépistage et de soins de ces maladies rares, et avec comme but d'améliorer en fait le développement neurocognitif de ces enfants, leur comportement et leur avenir et leur qualité de vie ultérieure. Il faut conforter ce qu'on a montré chez les bébés trisomiques dans d'autres maladies. Il est important de continuer à faire de telles études, de suivre ces enfants jusqu'à l'âge adulte. Et deuxième chose aussi, je vous ai dit que l'examen, le gold standard, l'examen de référence, était la polysomnographie. C'est un examen très compliqué, très long, avec énormément de capteurs, qui peut être difficilement réalisable à domicile, qui n'est pas très confortable pour l'enfant. Et à l'ère du Bluetooth et du numérique, etc., si on veut étendre et rendre plus facile les explorations du sommeil, il faut qu'on trouve d'autres outils, des outils simplifiés. Donc là, je travaille également sur des explorations du sommeil simplifiées avec moins de capteurs qui sont tout aussi fiables, mais qui permettent d'avoir un accès plus facile à ces explorations du sommeil. Ici, à Necker, même en ciblant énormément les patients, on a plus de 6 mois d'attente. C'est inconcevable. 6 mois d'attente, c'est une perte de chance pour les enfants. Parce que s'ils font de l'apnée du sommeil, ça veut dire que pendant 6 mois, à une période de croissance et de développement neurologique et neuronal intense, leur cerveau n'est pas assez oxygéné. Et ils ont un sommeil de mauvaise qualité. Et est-ce que ce retard, on peut le rattraper par la suite ? Donc ça, c'est quelque chose qui me soucie énormément.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment sont nés ces projets de recherche-là ?
Moi, je suis pneumologue pédiatre et je m'intéresse à la respiration des enfants et pas uniquement à la respiration des enfants qui ont une maladie pulmonaire. Je m'intéresse aussi à la respiration des enfants qui ont des maladies neuromusculaires, des maladies génétiques, des maladies endocriniennes. Et je pense que c'est très important que ce soit les pneumologues pédiatres qui ont une formation en physiologie qui, en tant qu'experts respiratoires, analysent la respiration de ces enfants. Donc en fait, quand je suis arrivée à Necker et qu'on m'a demandé de monter ma structure, d'une manière, je dirais, tout à fait naturelle, on est devenu une plateforme d'expertise, de conseil et surtout d'exploration du sommeil pour toutes les maladies rares, pratiquement, qui étaient suivies à Necker. Et c'est grâce à cette collaboration, un peu comme un hub, qu'on a pu démontrer au fil des années la fréquence et la sévérité des apnées obstructives du sommeil, améliorer la prise en charge, puisqu'on a des staffs réguliers pour ces enfants avec les neurochirurgiens, les orthodontistes, les chirurgiens maxillofaciales, les ORL, nous-mêmes, pour essayer avec l'ensemble des experts de proposer le traitement le plus adapté. Et j'ai vu l'évolution au fil des années, c'est qu'il y a une prise en charge maintenant qui est vraiment améliorée avec beaucoup moins d'enfants qui présentent de l'apnée obstructive du sommeil sévère, grâce à un dépistage systématique et une prise en charge adaptée beaucoup plus précoce.
C'est la question que j'allais vous poser. Quelles conséquences tous ces travaux de recherche que vous avez pu mener, ça a pu avoir sur la vie des patients?
Le sigle de mon unité, c'est bien respirer pour bien dormir et bien grandir. C'est-à-dire que le sommeil est une fonction vitale. Le sommeil est absolument indispensable à la santé et à l'équilibre physique et psychologique de l'enfant. Un bon sommeil est indispensable au bon développement neurocognitif, au bon comportement et au développement harmonieux de l'enfant. Et c'est vrai que quand on a un sommeil perturbé, eh ben, tout ça, ça s'aggrave. Et il a été bien montré que chez l'enfant sain, parfaitement bien portant, qui n'a aucune maladie associée, le fait d'avoir de l'apnée du sommeil est associé à une dysfonction neurocognitive, en d'autres mots, une diminution des capacités intellectuelles, des perturbations du comportement avec des enfants qui sont irritables, qui sont agressifs, qui n'arrivent pas à se concentrer, qui ont des troubles de l'attention, etc. Et tout ça rentre dans l'ordre avec un traitement adapté. C'est encore plus vrai chez des enfants qui ont des maladies génétiques et des maladies rares. Par contre, c'est moins bien étudié. Par exemple, chez les enfants trisomiques ou les enfants qui ont une délétion 22q11, par exemple, ils ont un certain retard qui est lié à la maladie. Et bien moi, je suis convaincue depuis des décennies qu'une partie de ce retard mental n'est pas liée à la maladie elle-même, mais est liée à l'apnée du sommeil qui se surajoute en fait à la maladie de l'enfant et qui aggrave le déficit neurocognitif. Il y a pour moi une nécessité absolue de s'engager dans cette voie et de profiter de cette fenêtre thérapeutique pour améliorer le développement neurocognitif et je dirais tout l'avenir intellectuel de ces enfants.
Donc les enjeux sont énormes et les perspectives sont belles.
Oui.
C'était le podcast Maux de tête proposé par la filière de santé maladies rares Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, écoutez le docteur Romain Luscan, praticien hospitalier dans le service ORL et chirurgie cervico-faciale pédiatrique à l'hôpital Necker, et le témoignage de la mère de Nour, sa fille de 8 ans, est atteinte du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts.